journal de la rédaction vous est présenté par Laura Dulieu. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la rencontre entre le président égyptien et le maréchal Haftar qui mène depuis 10 jours une offensive sur la capitale libyenne Tripoli. Nous retrouverons notre correspondant au Caire en début de journal. Et en France, semaine à haut risque pour Emmanuel Macron qui doit faire ses annonces pour clore le grand débat et le mouvement des Gilets jaunes. Pour en parler, l'invité de ce journal, Bruno Cotterêts, politologue au CNRS et au CVPOF. Enfin, plus que quelques heures avant le premier épisode de l'ultime saison de la série Game of Thrones, une série, nous le verrons, qui bat tous les records. En Libye, l'offensive du général Haftar se poursuit en direction de la capitale Tripoli. Après 10 jours d'affrontements, l'OMS fait état d'au moins 121 personnes tuées et près de 600 blessées. L'homme fort de l'Est libyen rencontrait cet après-midi au Caire le président Al-Sissi, soutien du général Haftar. Au Caire, Martin Roux.
Le général Khalifa Haftar et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi se sont rencontrés pour échanger sur les derniers développements en Libye. Voilà le communiqué lapidaire diffusé par le porte-parole du président al-Sissi. Sur une photo, on peut voir les deux alliés tout sourire, également en compagnie du chef des services de renseignement égyptien Abbas Kamel. Cette rencontre intervient au moment où le général Haftar apparaît en difficulté dans son offensive sur Tripoli. En effet, son armée nationale libyenne est toujours tenue à distance de la capitale par les hommes de Fayez al-Sarraj, à la tête du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Officiellement, le Caire soutient l'initiative onusienne visant à organiser des élections en Libye. L'Égypte appelle ainsi à mettre fin à l'escalade des combats, mais dans le même temps, elle appelle aussi à extirper les milices extrémistes de Libye. Pour le Caire, le général Haftar est perçu comme un allié contre le terrorisme nécessaire pour éviter toute incursion djihadiste sur le territoire égyptien. En effet, l'Égypte et la Libye partagent plus de 1000 km de frontières, très difficiles à tenir au milieu du désert libyque. L'Égypte, mais aussi les Émirats arabes unis, ont ainsi par le passé effectué des livraisons d'armement au général Khalifa Haftar. Ce dernier bénéficie donc de soutiens régionaux de taille, au premier rang desquels l'Arabie Saoudite, dans un contexte de fracture régionale entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Qatar soutient en effet, quant à lui, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj.
Martin Roux. Le nouveau pouvoir militaire au Soudan demande le soutien de la communauté internationale. Après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir jeudi, le ministère soudanais des Affaires étrangères affirme dans un communiqué que la communauté internationale doit comprendre la situation et soutenir le Conseil militaire de transition pour répondre à la volonté du peuple soudanais et réaliser une transition démocratique. En France, Emmanuel Macron sous pression pour la clôture du grand débat. Le président doit s'exprimer dans les jours qui viennent pour faire ses annonces censées répondre aux revendications des Gilets jaunes. Des annonces dont la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, n'attend pas grand-chose.
En réalité, je n'en attends rien pour une raison simple, c'est que le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de direction. Et donc je m'attends à quelques amodiations minimes, anecdotiques, à la marge, qu'il présentera bien sûr à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire qu'il s'agit là d'une révolution. Comment ils appellent ça ? Des annonces disruptives. C'est très macronien comme sémantique. Enfin, il n'en demeure pas moins que ça n'est, encore une fois, que la remise en cause qu'une partie minime des décisions qui ont été prises par lui et sur lesquelles il ne reviendra pas. Je pense évidemment à la suppression de l'ISF, je pense bien sûr à l'augmentation de la CSG, je pense aux augmentations d'électricité qui vont intervenir au mois de juin, alors même que fondamentalement le problème du pouvoir d'achat et notamment de ces dépenses contraintes des Français était posé depuis des semaines par les Gilets jaunes.
Marine Le Pen sur LCI. Emmanuel Macron va donc devoir convaincre les Français avec ses annonces. Invité de ce journal, Bruno Cotterêts, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. À mes côtés, pour vous interroger, Steven Goyer, bonjour.
Bonsoir.
Alors, Bruno Cotterêts, on l'a entendu, Marine Le Pen n'attend pas grand-chose des annonces d'Emmanuel Macron, comme une bonne partie de la population. Le président est-il donc dos au mur ?
Oui, clairement, le président Macron est dos au mur. Rappelons-nous la crise dont nous venons, les mois de novembre, de décembre, de janvier. Emmanuel Macron a fait face, sans aucun doute, à l'une des plus importantes crises de la Ve République. Donc il est dos au mur aussi pour redonner du sens et pour repartir de l'avant dans cette deuxième partie de son mandat. C'est clair qu'Emmanuel Macron n'a pas droit à décevoir.
Mais justement, Bruno Cotterêts, certains des proches d'Emmanuel Macron parlent d'un acte 2 dans le quinquennat. Quand on voit que l'enveloppe de 10 milliards d'euros débloquée en décembre n'avait pas suffi, comment peut-il s'y prendre et de quelle marge de manœuvre est-ce qu'il dispose pour y parvenir ?
Il est clair que les marges de manœuvre budgétaires sont extrêmement contraintes, effectivement. La France en ligne de mire toujours quand même la tenue de ses engagements budgétaires européens, donc elle n'a pas droit à des dérapages importants. Donc il va y avoir sans aucun doute des mesures à portée forte, portée symbolique, à enveloppe à peu près constante, des choses symboliques à la fois dans le domaine des institutions, parce que c'est quand même bien une crise démocratique, une crise de l'expression publique que nous avons vécue en France. Donc c'est dans la question, dans le domaine des institutions et de la prise de parole du public qu'il faut aller, et aussi inéluctablement, à moins qu'Emmanuel Macron ne vire considérablement de se voir, la question du pouvoir d'achat et des injustices, des inégalités.
Mais justement, cet acte 2, sans changement de ligne politique directrice, on entendait Marine Le Pen s'exprimer sur la question juste avant, sans ce changement-là, ça paraît possible, plausible ?
Ça paraît très difficile en tout cas. C'est vrai que c'est une équation qui est extrêmement difficile. Emmanuel Macron ne peut pas non plus expliquer à l'électorat qui a voté pour lui au premier et au deuxième tour qu'il change de cap. C'est donc toute la difficulté pour Emmanuel Macron de montrer qu'il continue d'avoir une ligne directrice ou une ligne de mire. Alors là, vraiment, on est au cœur de la difficulté pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire, comment va-t-il nous montrer qu'il y a un cap qui est maintenu et que c'est justement pour maintenir ce cap qu'il prend en compte un certain nombre de revendications et un certain nombre de décisions. Donc c'est là, vraiment, je crois, où on l'attend tous, qui est comment va-t-il nous montrer qu'il arrive à maintenir en même temps la colonne vertébrale du macronisme.
On parle d'une réindexation possible des petites retraites sur l'inflation, de la création de 2 tranches supplémentaires d'impôts sur le revenu, ou davantage de proportionnels. Est-ce que ça peut suffire ou est-ce que ça vous semble pour le moment trop symbolique ?
Je dirais que c'est le minimum nécessaire. La dose de proportionnelle était de toute façon déjà dans les tuyaux et dans le programme d'Emmanuel Macron, donc il n'y aura pas de surprise considérable. S'il annonce qu'on réduit le nombre de parlementaires, tout le monde lui dira « mais ça, c'était des choses qui étaient déjà actées avant ». Donc c'est vraiment sur une autre réforme institutionnelle, c'est pas celle-là, c'est vraiment la question de la prise de parole du public, de l'expression publique, comment tenir compte des demandes, comment ne pas revivre une nouvelle crise comme celle-ci. Et puis sur la question socio-économique, c'est clair qu'il y a de très fortes attentes, pas seulement des gilets jaunes, mais de toutes les catégories populaires, de toutes les catégories qui ont le sentiment que leur pouvoir d'achat, que leur salaire n'avance pas. Donc il y a là effectivement une très très forte attente, et on attend tous effectivement qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, ne déçoive pas.
Il y a un risque de renaissance de la contestation autour des ronds-points notamment ?
Oui, c'est clair. Le mouvement des gilets jaunes continue. On a vu, par exemple, samedi dernier, que la mobilisation était un peu plus forte que le week-end d'avant. On voit que dans les données d'opinion, l'opinion continue d'avoir un soutien qui est quand même majoritairement en soutien, même si c'est une majorité relative au mouvement des gilets jaunes. Donc, effectivement, la grave crise que nous venons de traverser n'est pas du tout éteinte. Il va falloir qu'Emmanuel Macron sorte l'artillerie lourde pour essayer de répondre aux attentes de nos concitoyens et en particulier à ceux qui ont beaucoup manifesté, ceux qui ont voulu envoyer un cri à Emmanuel Macron. Donc il va falloir qu'il réponde, ou alors à ce moment-là il renverra la balle à 2022 ou peut-être déjà au 26 mai prochain lors des élections européennes. N'oublions jamais qu'Emmanuel Macron a un objectif de court terme: gagner ces élections européennes. Il en va de sa crédibilité au niveau du Conseil européen également.
Ok. Merci beaucoup, Bruno Cotteresse.
Merci, Bruno Cotteresse. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et au CVPOF. Merci d'avoir été avec nous. Les pratiques discriminatoires de certains policiers parisiens dans le viseur du défenseur des droits, Jacques Toubon et ses équipes, révèlent un rapport faisant suite à une longue enquête de plus de 6 ans. Le texte dénonce des consignes et ordres passés entre 2012 et 2018 à certains policiers parisiens par leur hiérarchie, visant à contrôler, voire évincer, certaines catégories ethniques. Une telle discrimination constitue une faute lourde qui engage la responsabilité du préfet directement, souligne le défenseur des droits. Les détails sur ce rapport avec Mathilde Lemaire.
C'est un fonctionnaire de police qui, en désaccord avec des ordres reçus, a saisi le défenseur des droits. S'en est suivie une longue enquête, visée particulièrement 2 arrondissements touristiques du centre de Paris. Le rapport cite des mails envoyés aux effectifs, les enjoignant de procéder à des contrôles d'identité, je cite, de bandes de Noirs et de Nord-Africains. Il y est aussi ordonné des évictions de SDF et de Roms. Un profilage racial et social illégal. L'administration, informée de cette enquête, plaide la maladresse dans la rédaction de ces mails, et invoque l'impératif de sécurité. Problème, aucun comportement délictueux des personnes visées n'est précisé dans les mails. Elle invoque aussi la nécessité de mettre à l'abri des personnes vulnérables. Problème, les mails ne comportent pas d'informations sur leur prise en charge. Ces consignes constituent une faute grave, selon le défenseur des droits, une faute qui engage jusqu'à la responsabilité du préfet de police. Une copie de ce rapport a été envoyée à la maire de Paris, mais aussi au procureur de la République, qui pourrait diligenter des poursuites. Jacques Toubon demande enfin, dans tous les commissariats parisiens, une inspection conjointe de l'IGPN, la police des polices, et des affaires sociales, pour évaluer l'étendue de ces pratiques discriminatoires.
Mathilde Lemaire, à partir de ce soir, minuit, plusieurs services d'urgence de l'assistance publique Hôpitaux de Paris seront en grève. Une grève illimitée qui concerne notamment les hôpitaux Saint-Louis, la Riboisière ou la Pitié-Salpêtrière, qui rejoignent l'hôpital Saint-Antoine en grève depuis le 18 mars. La question de la sécurité aux urgences est au cœur des revendications, car les agressions du personnel soignant sont de plus en plus nombreuses, comme l'explique Patrick Peloux, urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France.
Il y a le mécontentement des usagers qui attendent trop et qui finissent par s'énerver. Vous avez la violence dans les rues, vous la retrouvez au niveau des urgences. Et le personnel des urgences est là pour soigner, pas pour se faire insulter et se faire tabasser. Et on a des agressions qui sont très fréquentes. Donc d'un coup, se pose un problème de l'organisation des structures d'urgence qui soient adaptées à la société. Il y a un manque de personnel justement au niveau des urgences. Il y a une fréquentation qui ne cesse d'augmenter avec de plus en plus de charges de travail qui pose des problèmes absolument majeurs en termes d'organisation pour l'ensemble de l'hôpital. Et il y a un moment, les personnels, ils craquent. Et je crois que c'est des revendications qu'il faut que les pouvoirs publics entendent.
Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Plus que quelques heures avant le retour de Game of Thrones, le premier épisode de la 8e et dernière saison sera diffusé cette nuit à 3h du matin aux États-Unis et simultanément dans 170 pays. Plus d'un milliard de spectateurs vont retenir leur souffle dès les premières notes du générique. Pas étonnant, Alexandra Akoun, quand on sait que depuis son arrivée sur les écrans américains en 2011, Game of Thrones n'a fait qu'aligner les records.
Don't frighten the North.
Série la plus vue au monde, rien qu'aux États-Unis. Le dernier épisode de la saison 7 a été vu en direct par 16,5 millions de fans. Série la plus piratée aussi. Chaque épisode de la dernière saison, en moyenne, était téléchargé ou streamé illégalement 147 millions de fois. Et à l'approche de la 8, les compteurs ont recommencé à s'affoler. C'est ce qu'a constaté Philippe Bailly. Il est le directeur de l'agence spécialiste des médias NPA Conseil.
Beaucoup de fans de la série ont ressenti le besoin de réviser en regardant les saisons précédentes. Et pour nous qui suivons au quotidien les usages de la SVOD en France, ça se traduit par plus de 8 millions d'épisodes qui ont été revus depuis le début 2019. On est vraiment dans une sorte de folie du rattrapage et des fans qui manifestement se préparent à déguster la nouvelle série.
Et ils devraient en avoir plein les yeux, cette ultime saison est annoncée comme la plus chère de l'histoire des séries. Chaque épisode a disposé d'un budget de 15 millions de dollars, soit 90 millions les 6 épisodes. Il devrait cependant être plus long qu'à l'accoutumée. Mais HBO, son producteur et diffuseur aux États-Unis, sait déjà que l'investissement sera rentable. D'après le New York Times, la franchise Game of Thrones rapporte à HBO 1 milliard de dollars par an.
Et en France, Game of Thrones sera visible cette nuit sur OCS. La météo pour finir. En soirée, le temps sera majoritairement sec. Quelques averses possibles sur le sud des Alpes et la Corse, avec des températures plutôt fraîches. Demain matin, le ciel sera dégagé à peu près partout sur le territoire, sauf à l'ouest où ce sera un peu nuageux. Pour les températures, le froid très présent, surtout à l'est, avec beaucoup de gelées, moins 2 à 3 et Charleville-Mézières. Ailleurs, il fera 8 degrés à Marseille, 3 à Paris et le maximum 10 degrés à Ajaccio. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Benetou.